Aujourd'hui, je vais vous parler de l'anatomie de l'œil de l'animal. L'œil de l'animal, à la différence de l'œil humain, est assez différent dans sa constitution, dans sa fonctionnalité et dans les pathologies qui sont représentées. La globalité est la même, identique en fait que chez l'homme, au niveau des structures, des paupières, la présence d'une cornée, etc. On a donc différents étages dont on va parler aujourd'hui. Les annexes, qui regroupent donc les paupières, conjonctives, donc tout ce qui est autour de l'œil. La cornée, qui est vraiment la partie transparente, en fait, qui souffre souvent de lésions, en fait, qu'on va pouvoir observer en ophtalmologie vétérinaire. La chambre antérieure, qui est la partie qui est entre la cornée et le cristallin, donc la première interface intraoculaire. Le cristallin, dont on a parlé tout à l'heure déjà un petit peu, donc qui est une sorte de lentille au sein de l'œil. Et toute la partie postérieure, le segment postérieur, lui, qui représente quasiment 2/3 du volume de l'œil. Et au fond duquel on va retrouver la rétine, qui vraiment en fait est l'organe qui va jouer le rôle, un des rôles les plus importants dans l'œil, puisque c'est lui qui fait la phototransduction, qui va transformer donc de la lumière en électricité et l'envoyer vers le cerveau, donc qui transforme finalement l'image en signal électrique. Alors, les annexes pour commencer. Donc, les annexes, c'est un système qui crée une interface entre l'extérieur de l'œil et l'intérieur de l'œil, qui va regrouper chez l'animal donc les paupières, donc une paupière supérieure, une paupière inférieure, la membrane excitante, ou souvent appelée à tort en fait la troisième paupière. Donc à la différence des paupières, en fait, elle a pas de partie épidermique, donc il n'y a pas de poils dessus, Dieu merci, sinon ça frotterait pas mal dans l'œil. Les conjonctives, donc, qui sont des interfaces muqueuses autour de l'œil, et le système lacrymal, qui, ben, je vous fais pas de dessin, en fait, le système lacrymal qui permet la sécrétion des larmes au niveau de l'œil. Les annexes, donc, leur rôle, fondamentalement, c'est un rôle de protection au niveau de l'œil. Donc, pour les paupières, c'est bien logique, en fait, donc quelque chose qui va protéger en cas d'irritation extérieure, vous avoir des cils qui vont protéger de la lumière du soleil. Vous allez avoir aussi un étalement des larmes qui est permis par le mouvement des paupières, en fait, qui vont se rejoindre et cligner ensemble. Les muqueuses et la conjonctive ainsi que la troisième paupière sont aussi des rôles de protection, puisqu'en fait ce sont des lymphocentres, donc des centres de défense immunitaire qui vont permettre localement d'avoir des émissaires en fait, hein, donc qui vont lutter contre les éventuels germes qui vont être présents au niveau de l'œil. On a tout un ensemble de molécules dans les larmes, dont le principal s'appelle le lysozyme, qui vise vraiment en fait à lutter contre ces bactéries qui seraient présentes éventuellement, des bactéries qui pourraient agresser en fait l'œil. La production de larmes. Donc la production de larmes chez l'animal, elle est un petit peu différente de celle de chez l'homme, puisque chez l'animal, vous avez deux glandes lacrymales de base, donc principales au-dessus de l'œil, et une glande lacrymale en fait qu'on dit accessoire, mais qui n'a d'accessoire que le nom, puisqu'elle produit près d'un tiers des larmes. Cette glande accessoire, elle se trouve dans la troisième paupière, en fait, donc pour comprendre, donc dans la membrane excitante, à sa base. D'ailleurs, vous aurez souvent eu le cas, je pense, dans votre expérience d'assistant en clinique vétérinaire, de voir de jeunes animaux, souvent des animaux en fait à museau assez court, qui vont présenter ces cherry eyes, donc ces luxations de la glande excitante, donc une petite boule rouge qui ressort de l'œil. Et en fait, c'est ça, c'est cette glande qui va ressortir. Donc ces deux glandes, donc glande lacrymale principale et accessoire, vont sécréter la partie aqueuse, donc la partie, c'est l'eau finalement des larmes. Mais les larmes, qui jouent un rôle de protection sur l'œil, ne collent pas sur la cornée par l'opération du Saint-Esprit, elles vont vraiment coller à la cornée grâce à une partie, une couche qu'on appelle mucinique. Cette couche mucinique, elle joue un rôle en fait d'adhésion entre les cellules épithéliales de la cornée, donc la première couche de la cornée, et cette phase aqueuse. Donc sans cette phase-là, donc qui est sécrétée par des glandes qui se trouvent dans la conjonctive, ce qu'on appelle des cellules caliciformes, elles vont vraiment lier en fait les larmes et éviter justement que les larmes ne partent trop vite, en fait, ne soient trop vite éliminées. Et en surface du film lacrymal, donc en surface de la partie aqueuse, vous retrouvez une couche lipidique, une couche grasse, qui évite l'évaporation simplement des larmes. C'est le même principe que quand vous mélangez de l'huile dans l'eau. La couche d'huile, elle, va permettre, en fait, va rester en surface et la couche aqueuse va rester plutôt en profondeur. Et cette couche vraiment lipidique est sécrétée par des glandes qu'on appelle les glandes tarsales, qui sont situées dans l'épaisseur des deux paupières, supérieure et inférieure. Et cet élément est assez intéressant puisque quand vous allez avoir en fait un animal qui a un syndrome d'œil sec, donc qui n'aura pas assez de phase aqueuse au niveau de son film lacrymal, son organisme va faire produire beaucoup beaucoup de parties lipidiques. Et souvent vous aurez des écoulements en fait au niveau de l'œil qui seront très épais, un peu comme de la morve ou des glaires, comme j'ai l'habitude de dire aux propriétaires, et souvent ils vont identifier leur animal par rapport à ces descriptions. Quelques maladies qu'on va pouvoir retrouver lors de modifications des annexes. Donc sur l'atteinte des paupières, les plus fréquentes sont les entropions, donc les enroulements des paupières. Donc un entropion, c'est vraiment la paupière qui s'enroule en direction de l'œil. Ces entropions, le plus souvent, ils vont atteindre des jeunes animaux, puisque ce sont des affections souvent congénitales ou héréditaires qui vont se développer dans le jeune âge. On a aussi des entropions qui sont tractionnelles, réactionnelles, suite par exemple à une griffure. Un chat qui se fait griffer l'œil, en fait, la paupière se déforme et s'enroule. Donc forcément, ça va irriter l'œil, ça va créer de la douleur. Les atteintes des conjonctives, on a des conjonctivites, c'est quelque chose qui revient assez souvent, en fait, hein, donc vraiment une forte rougeur des conjonctives avec des sécrétions souvent très épaissies. La luxation de la glande nictitante, on a déjà évoqué, hein, donc cette petite boule qui ressort de l'œil souvent chez les jeunes animaux, et des kératoconjonctivites sèches, donc ça, c'est des animaux qui n'ont pas assez de larmes. On a parlé du film lacrymal pré-cornéen, donc qui adhère à la cornée. La cornée est vraiment une des parties de l'œil qui nous intéresse le plus en ophtalmologie vétérinaire, puisque c'est elle qui finalement subit le plus de conséquences de lésions en fait lors de traumatismes. Quand on a des ulcères, des kératites, des pigmentations de cette cornée, voire des nécroses cornéennes comme le séquestre cornéen félin. Alors, la structure de cette cornée, pourquoi est-ce qu'elle est transparente, puisque c'est un enchevêtrement de fibres de collagène avec très peu de cellules. En fait, il faut retenir une chose, c'est que dans l'organisme, plus il y a de cellules, moins la partie, en fait, moins la cornée sera transparente. Donc il y a bien une couche très cellulaire qu'on appelle l'épithélium, qui est vraiment la couche de surface, qui protège, en fait, c'est vraiment le bouclier, en fait, finalement, de la cornée. Et va protéger la partie la plus importante de la cornée qu'on appelle le stroma cornéen, qui est fait essentiellement de collagène. Et ce collagène, en fait, ce stroma repose sur ce qu'on appelle une membrane de Descemet et un endothélium, qui sont vraiment l'interface entre la cornée et l'intérieur de l'œil. Pourquoi c'est transparent aussi? Puisque cette cornée ne présente aucun vaisseau sanguin. Pourquoi? Parce que l'alimentation de cette cornée, la régénération des cellules, ne se fait que grâce aux larmes. Donc c'est vraiment hyper important en fait, d'avoir des larmes de bonne qualité. Et dès qu'on aura une modification de quantité de larmes ou de qualité des larmes, la conséquence va être en fait une modification de la transparence de la cornée, la présence de vaisseaux, tous ces éléments qui devront vous mettre sur la piste d'une éventuelle pathologie cornéenne. Donc différentes couches qui sont présentes et donc des pathologies qui en découlent. La cornée donc va chapeauter, c'est vraiment un hublot avant d'accéder à ce qu'on appelle la chambre antérieure. La chambre antérieure, c'est un élément en fait rempli de liquide qui consiste et qui comprend l'iris, qui comprend l'UV, c'est toute la partie antérieure de l'œil. Le liquide contenu dans la chambre antérieure est en circulation permanente, c'est ce qu'on appelle l'humeur aqueuse. Et la production en fait, elle se fait derrière l'iris et la réabsorption, elle se fait en avant de l'iris. Ça a son importance, puisque en fait, quand vous avez des modifications d'inflammation dans l'œil, quand vous allez avoir un déplacement du cristallin qui va boucher en fait, cette évacuation, ça va mener en fait, à des troubles d'évacuation de l'humeur aqueuse, et la résultante sera une augmentation de la pression dans l'œil. D'accord ? Donc c'est vraiment quelque chose d'assez fréquent en médecine vétérinaire, et les causes qu'on a vraiment nous le plus souvent sont des uvéites, donc des inflammations justement du liquide contenu dans cette chambre antérieure, à cause d'agents pathogènes, à cause de maladies immunitaires, à cause de tumeurs, à cause de pas mal de pathologies qui vont faire que cette chambre antérieure va changer d'aspect, va devenir souvent un peu laiteuse, voire rouge, avec même des fois du sang en nature, et qui peut résulter jusqu'à la perte de vision de l'animal. Le glaucome, on en a parlé tout à l'heure, en fait c'est une pathologie qui entraîne une augmentation de la pression dans l'œil, et qui va entraîner également ce genre de conséquences, donc défaut de vision, douleur, etc. Et la dernière chose qu'on va voir, donc c'est les pigmentations de l'iris, donc changement de couleur de l'iris, surtout chez le chat. Le cristallin, donc c'est vraiment la lentille de l'œil, elle sépare en fait les deux milieux de l'œil, la partie antérieure, chambre antérieure et chambre postérieure. Il va permettre d'accommoder la lumière et de refaire le point en fait la lumière au niveau de la rétine. Il a donc ce rôle dans l'accommodation. Il est tenu par les corps ciliaires et les pathologies principales, on en a parlé un petit peu, ce sont les déplacements de ce cristallin, donc les luxations, ainsi que la cataracte. La cataracte, c'est le blanchiment en fait du cristallin qui forcément va avoir des conséquences sur la vision. La rétine, c'est la dernière partie de cet exposé. Aujourd'hui, en fait, la rétine, on sait qu'elle va transformer l'information lumineuse en vision, donc via le nerf optique, et qui nerf optique chemine jusqu'au cerveau. Donc ça convertit finalement la lumière en électricité grâce à des cellules qu'on appelle les photorécepteurs. On en a deux types dans une rétine, des cônes et des bâtonnets. Les cônes voient la lumière du jour, les bâtonnets la lumière à l'obscurité, on va dire. Différentes pathologies qui vont atteindre la rétine et que le vétérinaire va pouvoir évaluer, ce sont des dégénérescences de rétine, des décollements rétiniens, des maladies de rétine consécutives à l'hypertension chez le chat, par exemple, ainsi que des maladies héréditaires, en fait, hein. Donc il y a des animaux qui ont une rétine qui dégénère plus précocement que, logiquement, avec l'âge. Donc on peut se retrouver avec des animaux vers 4 à 5 ans qui ont des pathologies héréditaires menant à nécessiter donc une perte de vision, sans oublier aussi les maladies inflammatoires, en fait, de la rétine. En conclusion, en fait, dans l'œil, vous avez différentes structures qui doivent être connues, de par un vocabulaire assez précis, et de connaître un petit peu les pathologies qui peuvent les toucher. L'œil, finalement, c'est vraiment un organisme dans l'organisme, puisqu'il est très indépendant de l'organisme en général, et on retrouve plein de petites parties, en fait, il est vraiment très bien cloisonné. C'est donc important de savoir de quoi on parle et comprendre les mécanismes pour comprendre un peu mieux les pathologies.